Décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 5, salut Manu.
Salut Mag.
Salut Nico.
Salut Luc.
Donc nous sommes tous là pour une fois. Et revue de presse, petite revue de presse.
Petite revue de presse, effectivement, seulement 4 articles.
Alors, développé.com, l'expression logiciel open source souffle sa 20e bougie, par Stéphane Lecalme.
Donc ça parle de la définition d'un mouvement auquel on prend part. Et on va en discuter un peu après, parce que ça mérite d'être approfondi.
Lemonde.fr, la bibliothèque numérique Open Library, inquiète des associations d'auteurs par la rédaction.
Alors, Open Library, il diffuse des contenus pas forcément actuels, des vieux livres notamment, qui sont dans le domaine public, mais aussi des livres actuels, et ça génère des problèmes avec les regroupements d'auteurs qui se plaignent de perte de revenus, et qui attaquent la librairie libre, ouverte. Et ça leur crée des problèmes.
C'est réellement les auteurs qui attaquent ou les éditeurs ?
C'est des éditeurs, des associations d'auteurs aux États-Unis.
Le point, algorithme, ce sont les individus qu'il faut responsabiliser, par Laurence Neuer.
Donc ça parle de la CNIL qui essaye de défendre un petit peu les libertés et la vie privée de tous. Mais justement, il y a des problématiques avec les logiciels et les algorithmes utilisés par les logiciels. Donc on en a parlé plusieurs fois, c'est des sujets qui reviennent tout le temps. Et en gros, c'est inéluctable que ces problèmes apparaissent, on ne peut pas l'éviter. Et il faut faire attention, il faut se méfier de tout cela et les suivre. Mais on ne pourra pas les empêcher fondamentalement.
Le mag IT, examen de code source par les autorités russes, des airs de faux procès, par Valérie Marchive.
Donc toute une problématique vis-à-vis des États, et notamment en lien avec les soucis d'espionnage. Est-ce que les logiciels propriétaires peuvent être utilisés pour espionner ? C'est probablement le cas pour certains antivirus russes utilisés aux États-Unis, d'après les services des États-Unis.
Alors que les logiciels propriétaires américains n'espionnent personne. Hein,
jamais. D'après les services secrets américains, ils espionnent pas, il n'y a pas de souci. Et donc en tout cas, pour essayer de malgré tout rester dans les marchés, les éditeurs de ces logiciels ouvrent un peu le code source à l'étude par les États, donc ce qu'a fait notamment Microsoft à certaines époques. Et bien la remarque qu'on peut faire, qui est faite dans l'article, c'est de dire le logiciel libre, lui, fournit le code source de base, donc c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace pour garantir une certaine sécurité.
Donc cette semaine, on va exploiter ce sujet d'actualité là sur les 20 ans de l'open source, pour revenir un peu sur une de ces notions fondamentales qu'on a dans le milieu. Donc l'open source, nous on parle plutôt de logiciel libre, et l'open source c'est un terme qui est reconnu, utilisé un peu partout. Donc ce terme open source, d'où il vient ?
On le doit à Christine Peterson, qui faisait partie d'un...
Ah, Christine, oui, je la connais bien. Non, en fait, je ne sais pas qui c'est.
Elle faisait partie du Foresight Institute, qui réfléchissait, enfin, c'est un think tank, hein, clairement, qui réfléchissait autour du logiciel libre à l'époque, qui s'appelait Free Software.
S'occupait des nanotechnologies et de l'intelligence artificielle, et par ce biais-là, sont arrivés sur...
Et la sécurité, enfin, ils faisaient beaucoup de choses. Et la question qui se posait, en fait, c'est qu'ils utilisaient donc Free Software en anglais, et ça passe assez mal, en fait, puisque le free, il y a plusieurs sens, et donc, du coup, ça posait problème pour se faire comprendre.
C'est polysémique.
En quoi c'est polysémique, Magali ?
Free, ça, en anglais, ça veut dire gratuit, ou ça veut dire libre. Et donc, comme c'est le même mot, c'est pas très compréhensible. Contrairement à nous, en France, on dit logiciel libre, et non pas logiciel gratuit.
Alors effectivement, c'est sans doute un très mauvais choix de Richard Stallman d'avoir choisi Free Software. C'est hyper ambigu.
C'est un très mauvais choix. C'est une petite erreur. C'est une maladresse. Et il a des regrets là-dessus. Et parfois, il le dit, il aurait préféré utiliser le mot français. Le mot français libre est beaucoup plus approprié et direct.
Mais du coup, pour les entreprises, c'est vrai qu'ils ont dû chercher un terme, en tout cas en anglais, et qui est beaucoup plus évident. Et c'est vrai que open source, ça dit bien ce que c'est.
D'autant plus qu'il existe des freeware, donc des logiciels gratuits. Et donc free software face à freeware, c'était quand même un peu difficile.
Donc en gros, c'est ce qu'il explique dans l'article dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qu'explique Christine Peterson. C'est qu'à force de discuter de logiciels libres, donc free software, dans les différentes rencontres avec les entreprises, avec d'autres intervenants, ils devaient à chaque fois réexpliquer, toujours faire en double. Donc après avoir réfléchi un peu, le code source, c'était la chose qui ressortait. Donc ils ont utilisé quelques autres termes. Et en 98, ils sont arrivés avec ce terme logiciel open source qu'ils ont présenté. Et petite remarque, c'est pas Christine Peterson qui a obtenu la paternité du terme. Non, ça a été retransmis à
Eric Raymond et Richard Stallman.
Alors surtout Eric Raymond, mais oui, Richard Stallman aussi, ça lui a été en quelque sorte mis sur le dos, parce que c'était eux qui portaient les concepts et toutes ces choses là et donc Christine Peterson a été un peu oubliée dans l'histoire.
Là elle se récupère bien, on voit qu'elle...
Oui, dans l'article, effectivement, on se met très en avant. Alors quand ils ont inventé ce terme, ils n'ont pas perdu leur temps non plus. ils ont déposé tout ça.
Voilà, ils ont fondé l'OSI, l'Open Source Initiative, pour essayer de labelliser un peu toutes les licences, parce qu'il y a des licences complètement différentes dans l'univers du libre, ou même un peu au-delà du libre. Et donc, ils ont essayé de mettre un label sur qu'est-ce qui était open source, qu'est-ce qui l'était pas, et en expliquant pourquoi, en faisant un peu de pédagogie derrière tout ça, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. L'OSI est toujours vivante, hein, et continue à labelliser plein de choses. Et il y a des gros du secteur qui sont reliés à cette initiative-là, même des qu'on n'aime pas forcément, hein, des Google, des Oracle, du Red Hat, des choses comme ça, et du
non, nous,
et
aussi
du libre.
Monde.
Voilà, et aussi du libre avec du Debian ou autre qui soutiennent ce mouvement-là.
Bah, rappelons que les fondations de l'OSI, les critères pour dire qu'on est open source, c'est des critères qui ont été repris de Debian tel quel. Il y avait 10 règles pour dire on peut rentrer dans Debian ou pas. Bah, ils les ont repris pour l'open source. Hein. Donc c'était assez intéressant, c'était un bon point de départ. Mais ce ne sont pas les 4 libertés classiques dont on parle en général pour parler du logiciel libre.
Et qui viennent de Stallman. Pour le,
et qui viennent de Stallman, c'est pas la même origine tout à fait.
Donc aujourd'hui, en 2018, le mouvement open source libre et open source s'est très largement développé. Ça a été un succès. On peut difficilement nier, non ?
Économiquement parlant, il y a énormément d'entreprises qui font de l'open source et qui voient leur chiffre d'affaires grossir continuellement.
Et aussi, malheureusement, des boîtes qui font du pas libre, qui se goinfrent avec du l'open source ou du libre en interne, mais qui ne refourguent rien à leur
aujourd'hui,
à leur
il n'y a aucune entreprise d'informatique un peu conséquente qui n'utilise pas de libre.
On en utilise forcément à un moment donné, mais par contre, tu ne le mets pas en avant. Je pense à Oracle. Oracle, ils font une base de données tout à fait propriétaire. Ils font aussi du libre, hein, par ailleurs, mais pour leur logiciel et pour ce qu'ils mettent en avant, ça se voit pas, quoi. Il n'y a pas cette apparence de on utilise autre chose. Apple utilise du libre. Toutes les bases d'Apple, c'est du libre. Mais ils ne le mettent pas en avant du tout. Ils ont repropriétarisé, privatisé. Je ne sais pas comment on pourrait...
Va pour privatiser. Hein.
Oui, effectivement, c'est un peu compliqué. Et donc, Apple, ils ne sont pas très cool de ce point de vue-là. Ils ont repris plein de choses. Ils ont refermé tout ce qu'il y avait derrière. Mais ils font de l'open source, quelque part. En tout cas, ils l'utilisent. Et c'est plutôt encouragé par l'initiative.
Et on a aussi l'exemple de Google qui fait du libre en interne. C'est quasiment du 100% libre, sauf que comme on n'est pas propriétaire du logiciel et qu'il ne le distribue pas et qu'on le consomme juste en tant que service, et les utilisateurs sont quand même pris au piège de Google et on ne peut pas s'échapper de là, alors qu'il y a de fortes à parier que c'est du 100% libre qui fait tourner tout ça.
Effectivement, l'open source, le libre, marche extrêmement bien. Quand on va regarder la Fondation Linux, qui est membre de la Fondation Linux, on retrouve tous les grands noms de l'informatique,
dont Microsoft
qui les a rejoints il y a peu de temps et qui, il y a quelques années, disait que le libre, c'est le cancer de l'informatique. Alors, ils continuent à manœuvrer quand même pour se garder des choses.
Mais Microsoft fait du libre.
Mais ils font du libre.
Ils sont ouverts énormément depuis
plus de 5 ans.
Ils font du l'open source.
Alors, logiciel libre. Ça pose la question, Magali. Quelle est la différence, selon toi, qui est la position de l'April, je pense, entre libre et open source?
Non, c'est un véritable troll. La différence entre libre et l'open source, et ça peut être vu de telle manière différente que si on rentre là-dedans, on est foutu, on dépasse les 15 minutes.
Ah bon ? Oui, mais on peut mettre une base.
Bon, alors, une base. Pour moi, l'open source ne s'engage qu'à une chose, à avoir un code ouvert. Donc tout ce qui est éthique, liberté de l'utilisateur, ainsi de suite, c'est important, mais c'est pas essentiel. Contrairement au logiciel libre qui, lui, met vraiment les libertés de l'utilisateur en avant.
Alors effectivement, et on le voit dans ce que tu disais, Nicolas, par rapport à Google, mais les autres sont un peu pareils. Hein. Facebook utilise énormément de libre aussi.
Et ils en font, ils en diffusent.
Ils en diffusent, ils ont même mis en place une sorte de club des boîtes qui ont des très très gros data centers pour partager des tas d'astuces.
Je crois
sur
qu'ils partagent même les plans du data center, il y a des éléments qui sont partagés.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les utilisateurs de Facebook, les gens qui vont se connecter, à moins qu'ils créent un data center géant demain, toutes ces libertés auxquelles ces grosses boîtes ont accès, ils n'en bénéficient pas. Donc effectivement, toutes ces grosses boîtes, celles qu'on appelle les GAFAM, et particulièrement celles qui sont vraiment tournées sur Internet, donc Google, Facebook, etc.
Amazon, Apple, Microsoft.
Prospèrent grâce au libre. On nous a expliqué que si un Google voulait créer une infrastructure et devait payer une licence pour chacun des serveurs qu'il déploie et pour chacune des bases de données qu'il déploie, ne serait-ce que financièrement, ils n'auraient jamais pu atteindre un début de rentabilité. Et en plus ça, ils font des choses quand même très compliquées, donc ils ont besoin de mettre les doigts dans le code source pour pouvoir faire marcher leur truc très très complexe.
Et c'est même comme ça qu'ils ont pu démarrer. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur des technos privatrices, y a un coût d'entrée qui est juste effroyable. Alors que là, n'importe qui peut tester, peut mettre en place des solutions, regarder ce que ça donne. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais au moins, on n'a rien perdu au départ.
Donc ces géants qui sont construits en quelques années, c'était quand même très rapide quand on y pense, en 10-15 ans, n'existeraient pas sans logiciel libre. Mais en revanche, toutes les libertés libres qui leur ont permis d'exister n'en font pas bénéficier leurs utilisateurs. C'est-à-dire, quand on se connecte sur son Facebook, on est
enfermé dans une cage dorée.
Plus ou moins dorée, sachant que dans les conditions d'utilisation, de Facebook ou de Google, on va jusqu'à céder nos droits d'auteur, hein, les droits patrimoniaux, sur ce qu'on va mettre dans les réseaux sociaux. Donc on appartient au réseau social et notre vie appartient au réseau social d'un point de vue juridique, vraiment.
Ce qui veut dire que tes photos de vacances peuvent être utilisées en général dans un autre pays pour faire de la pub.
Potentiellement. Et après, bon, certains disent non, mais ils ne l'utiliseront jamais. Mais dans ce cas-là, pourquoi dans ce cas-là mettre un droit de propriété s'ils n'ont pas l'intention de l'utiliser ? Mais bref, moi j'avais cette formule que j'utilise de temps en temps en conférence qui est de dire en fait, le logiciel libre, c'est le logiciel qui est trop bien pour vous. C'est-à-dire que ils ont prospéré dessus. Ça marche super bien. La preuve, c'est qu'ils ont fait des trucs fabuleux dessus. Ça reste très impressionnant, la réalisation. Mais ils ne veulent pas que vous, utilisateur final, bénéficiez des mêmes libertés dont ils bénéficient eux. Ils se gardent ces bénéfices-là. Et comme tu disais, Magali, c'est effectivement la différence qu'il y a entre nous, libristes purs et durs, où on dit tout le monde devrait avoir les libertés et tout le monde devrait avoir les bénéfices de ces avantages-là.
Les quatre libertés de Stallman, ce sont des libertés des utilisateurs, hein, et ce sont des libertés universelles, pas forcément faciles à utiliser, mais les libertés, c'est pas forcément aisé d'en profiter, mais ces libertés sont partagées à tous. Le code source, quand on te dit juste t'as accès au code source, c'est bien, hein, c'est vrai, c'est une liberté, mais en fin de compte, tu te retrouves face à un mur.
Il n'y a que les informaticiens quoi, du coup, qui peuvent s'en servir.
En tout cas, c'est ce qui est mis en avant et c'est l'approche. Alors, moi, j'aime bien dire ça, c'est que l'approche open source libre, c'est ça la différence, c'est la façon dont on envisage les choses. Au final, le code source lui-même, ce qu'on en obtient, il n'est pas différent. Hein, et ce que produit Google en logiciel libre, c'est pas différent que ce qu'on peut faire nous-mêmes. Par contre, effectivement, ils vont pas forcément tout diffuser et ils vont mettre en avant des services. Et c'est les services qui vont enfermer les gens, les mettre dans des petits paquets, dans des boîtes, et on pourra plus sortir ces données une fois que les données ont été prises par ces services.
Alors, effectivement, si on regarde ce code source, finalement, ce qui va faire la différence, c'est la capacité de différents acteurs à réussir à mettre les moyens nécessaires pour bénéficier de ces avantages. Et on voit que le grand public, bah, il a finalement très peu d'organisations qui lui permettent de bénéficier de ces avantages-là. On a, dans le libre, quelques initiatives majeur, dont Framasoft par exemple, dont on parle régulièrement, qui met en place des services libres. On a quelques très beaux logiciels libres, VLC.
On a VLC, hein, qui est le logiciel libre français le plus utilisé au monde.
Voilà, lecture de médias.
Et le moins rentable.
On a Firefox aussi.
Firefox aussi, avec une politique assez ambiguë qui fait grincer
des dents. Bordélique, ouais. Mais il y a LibreOffice aussi qui a été très utilisé. Thunderbird, qui est en particulier dans l'éducation, dans la gendarmerie, très utilisé dans la gendarmerie française.
Voilà. Et tous ces projets-là, évidemment, on a besoin d'argent pour payer des gens pour bosser. Il ne s'agit pas de faire fortune ou ce genre de choses, mais bien souvent, les projets libres, au sens que nous on défend, ont peu de moyens. LibreOffice, il tire vraiment le diable par la queue.
Peu de moyens et peu de développeurs derrière.
Ah, oui. Et quand on y pense, voilà, Facebook, ce que leur rapporte un utilisateur en publicité par an, je crois que c'est de l'ordre de $13 ou quelque chose comme ça. Donc quand on y pense, c'est pas beaucoup d'argent finalement par rapport...
Mais sur un milliard, hein, tu fais les calculs.
Ça va vite.
Ouais. Oui, oui. Mais au final, on se dit que on est un petit peu
Des parents pauvres, mais des parents pauvres qui constituent l'architecture et les fondements d'Internet. L'Internet existe grâce au logiciel libre, c'est l'infrastructure partagée qui a permis aux deux de se développer.
Je crois que c'était grâce aux éditions porno.
Alors, c'est pas incompatible, le porno, ça permet de développer tout.
On sait jamais qui a inventé le premier, mais...
Mais en tout cas, comme infrastructure, il y a une combinaison des deux. Le logiciel libre, c'est un partage. Internet, c'est un partage. Il y a des philosophies qui ont toutes les deux leur source dans les années 70. Il y a des raisons, dans les universités américaines, dans les gens qui se battaient contre le Vietnam, qui étaient un peu baba cool. Tout cela, ça se combine et on voit aujourd'hui, des années après, arriver à... des choses qui sont un peu transformées, mais il y a quand même des origines communes. Et ces origines communes-là, elles nous apportent le monde moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, de manière assez novatrice.
Voilà, mais du coup, il faudra se battre un peu contre les gros pour arriver à reprendre nos libertés, les reconquérir, et qu'enfin le libre gagne sur l'open source.
Voilà, il faut s'unir et s'organiser. Bon, on a fait le tour à peu près.
À la semaine prochaine.
Salut !
Bonne semaine à tous.